Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omani kobena.
It's okay. You know, it's okay.
It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
People pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back. Junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far. Cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
Nous venons d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires avec un grand classique de la culture hip-hop. Il s'agit évidemment de Grandmaster Flash and the Furious Five. Et ce titre, The Message, paru en 1982, l'occasion pour nous de faire un état des lieux de cette forme d'expression qui depuis 50 ans rythme la vie des Afro-Américains et dont nous allons parler avec un incontestable spécialiste, Olivier Cachin. Soyez le bienvenu.
Merci de l'invitation, Joe.
Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé Naissance d'une nation hip-hop, 50 ans de rap made New Essay, paru chez GM Édition. Quand vous dites que le rap naquit il y a un demi-siècle, est-ce que vous ne poussez pas le bouchon un peu loin? Cela voudrait dire qu'on faisait déjà du rap en 1968.
Ben oui, c'est à peine exagéré puisque le premier album des Last Poets sort en 70. Ils ont commencé leur carrière en 68. Alors évidemment, c'est pas le hip-hop tel qu'on le définit dans la culture hip-hop, mais c'est une poésie scandée sur des musiques inspirées du jazz, basées sur de la percussion. Et puis, par contre, ce qui est vraiment très hip-hop dans l'esprit, c'est cette violence verbale. Ce sont quand même les premiers noirs américains à se réapproprier l'ultime insulte de la langue anglaise, nigger, le mot nègre qu'ils emploient et qu'ils retournent avec des morceaux comme Niggers Are Scared of Revolution. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des groupes de rap vont utiliser ce mot comme un terme d'affection ou comme une interjection dans les morceaux. Ça paraît classique. À l'époque, c'était un choc tellurique incroyable.
Cela dit, pour rejoindre votre propos, le grand saxophoniste et activiste Archie Shepp dit avoir été un rappeur à la fin des années 60 en déclamant des poèmes très militants sur scène et sur disque. Est-ce que vous diriez que le rap est né du mouvement des droits civiques?
Il en est une des émanations, oui. Après, on peut même remonter au griot africain. Mais c'est vrai que des artistes, des poètes comme Gil Scott Heron, des activistes comme les Last Poets ou Archie Shepp font partie effectivement de cette grande bouillabaisse de la musique noire américaine dont est issue la culture hip-hop qui va vraiment... En fait, ce qui est marrant, c'est qu'elle a une date de naissance qui est évidemment symbolique. C'est le 11 août 73 qui est la première documented hip-hop party de la sœur de Kool Herc. Kool Herc qui est un des DJ historiques du mouvement, un des premiers activistes de la musique qui a, avec les platines, fait de la musique, parce que rappelons qu'au début le hip-hop c'est deux platines et un DJ avec une table de mixage qui passe des disques et qui va, avant même l'apparition des sampleurs, des machines, créer une nouvelle musique à partir de phonogrammes déjà existants.
Pourquoi dit-on que The Message que nous venons d'entendre est le premier grand classique de l'histoire du rap, alors qu'il y avait eu Rapper's Delight de Sugar Hill Gang 3 ans auparavant?
Alors Rapper's Delight est un morceau extrêmement important, d'abord parce qu'il a un succès commercial très symbolique puisque dans le monde entier c'est un tube de club, hein. On l'entend en France, on l'entend en Allemagne, on l'entend en Amérique du Sud. C'est basé sur un morceau de funk disco très très réussi qui est Good Times de Chic, le groupe de Bernard Edwards et Nile Rodgers. Mais c'est vrai que c'est la première époque du rap, parce que contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, le rap ne naît pas comme une musique sociétale ou révoltée. C'est une musique de danse, c'est une musique d'oubli. Rapper's Delight, c'est ça, c'est des histoires drôles, des petites anecdotes, c'est très rythmé, c'est très musical, c'est très disco. Le hip-hop des débuts a beaucoup de connexions avec la musique disco. Et avec The Message en 82, qui est rappé en fait par Melly Mel et Duke Booty. Ce sont les deux rappeurs, parce que il est signé Grandmaster Flash and The Furious Five, mais Grandmaster Flash, qui était le disc jockey du groupe, n'apparaît pas dans le morceau. Les Furious Five sont juste à la fin, l'espèce de petit sketch à la toute fin du morceau. C'est Melly Mel et Duke Booty, et qui font ce que j'appellerais du cinéma auditif, c'est-à-dire que ce qu'ils racontent, moi jamais j'oublierai la première fois où j'ai entendu Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with a baseball bat, des rats dans le salon, des cafards dans l'arrière-cour et des junkies dans le hall avec une balle de baseball. Cette image, tout de suite, on est planté dans le ghetto et on n'en sortira pas pendant 7 minutes. Et cette façon d'exprimer une réalité, de raconter avec des histoires qui là sont tragiques, parfois comico-tragiques, ce que c'est que la vie d'un noir dans le ghetto new-yorkais du Bronx en 82, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. La musique noire avait renoncé à raconter son vécu intrinsèque, alors que c'est une époque, c'est le début de l'ère Reagan, qui va pas être très tendre pour les minorités noires. C'est l'arrivée du crack aussi, qui quelques années après sera là. Donc tout ça, c'est raconté dans ce maelstrom d'images et de mots qu'est The Message, et c'est un morceau qui est essentiel. Et en plus, musicalement, on ne sait toujours pas comment on est arrivé à ce génie. Là, ce sont des vrais musiciens, il n'y a pas de DJ derrière. Hein. C'est Doug Wimbish, Skip McDonald, Keith LeBlanc, qui sont des brutes, des musiciens de session, qui ont travaillé avec tous les plus grands, hein, Little Axe, Rolling Stone, plein d'autres, qui créent cet instrumental qui a été repris plein de fois, imité beaucoup, égalé jamais.
Écoutons 3 ans auparavant ce dont vous parliez, Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, avec cette introduction qui rappelle donc, vous le disiez étrangement, le Good Times du groupe Chic.
To the hip, hip, hop, you don't stop the rocker to the bang, bang, boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. To the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought 2 friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song.
Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I guess to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got 2 big guns, I definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a sunroof Cadillac. So after school I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me talking about checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend.
Rapper's Delight, Sugar Hill Gang en 1979. Olivier Cachin, il y a plein de choses à dire sur ce titre. D'abord, la fameuse partie de basse que vous disiez empruntée à Bernard Edwards du groupe Chic. Qui a eu cette idée et qu'en ont pensé les auteurs originels?
D'abord, ce qu'il faut savoir, ce qui est étonnant, c'est que finalement, c'est la productrice Sylvia Robinson, qui est d'ailleurs elle-même chanteuse de R&B, qui possède plusieurs labels de soul, dont All Platinum, Sugar Hill Records, entend ce groove qui tourne dans la rue, dans les petits clubs du Bronx, de Queensbridge, des quartiers noirs new-yorkais, et va avoir l'idée de faire un groupe qu'elle va monter de toutes pièces, comme un boys band. Hein. Elle va trouver donc Big Bang Hank, qui fait des pizzas dans un restaurant, et qui chante sur le rythme. Alors, bon, à l'époque, il est censé être le manager d'un type qui s'appelle Grandmaster Caz. Et quand Sylvia Robinson l'entend rapper et dit c'est toi qui fais ça, elle lui fait, au lieu de dire oui, je suis le manager d'un mec super qui s'appelle Grandmaster Caz, il fait oui, c'est moi, c'est moi. Et il va même chanter dans le morceau les rimes de son pote Grandmaster Caz qui lui a volé. Quand il dit I'm the C-A-S and the O-V-A and the rest is F-L-Y, ça veut dire Casanova Fly. Et moi, je me rappelle quand j'ai découvert le morceau, j'étais là, mais pourquoi il dit je m'appelle Casanova Fly alors que son nom c'est Big Bang Hank, c'est marqué sur la pochette? Parce qu'il a piqué les rimes. Donc tout ça est un espèce de mix. Et évidemment, Nile Rodgers et Bernard Edwards ne sont pas consultés. C'est un groupe maison, le Sugar Hill Band, qui rejoue le morceau Good Times. Et Nile Rodgers, que j'ai interviewé des années plus tard, m'a raconté être rentré en boîte une fois, entendre son morceau, entendre un rappeur par-dessus, croire que c'était le DJ, parce qu'à l'époque, souvent les DJ parlaient par-dessus les instrumentaux. Et il me dit j'arrive devant la cabine cabine du DJ, je vois qu'il n'y a personne, il y a un disque qui tourne. Et quand le DJ revient après avoir été dragué une copine au bar, parce que le morceau de 15 minutes c'est pratique pour ça, il lui dit mais c'est quoi ce truc? Il dit comment, mais tu connais pas, mais c'est le nouveau hit, tout le monde adore ça, c'est Rapper's Delight. Et il dit j'ai regardé le disque quand il l'a enlevé et j'ai pas vu mon nom. Et là ça a été le début des problèmes. Alors après, bon, il a aussi raconté qu'il a eu quelques petites amicales tentatives de petits coups de pression de gens qui viennent en studio avec des flingues autour de la ceinture et qui disent vous savez, Madame Robinson n'est pas tout à fait d'accord avec l'idée que vous fassiez un procès, c'est une très mauvaise idée. Il l'a quand même fait et il a évidemment récupéré ses droits. Et si vous regardez sur un maxi plus récent de Rapper's Delight, il n'y a plus marqué Sugar Hill Gang ou Sylvia Robinson, il y a marqué Nile Rodgers, Bernard Edwards.
Du groupe Chic.
Du groupe Chic.
Il y a en tout cas beaucoup d'éléments à prendre en compte pour comprendre l'épopée du rap, des noms, des villes, des labels. Il y a donc Sugar Hill Records porté par Sylvia Robinson et quelques temps plus tard Def Jam. Qui sont les instigateurs de cet autre label ?
Alors Def Jam, c'est amusant parce que finalement, à la base, ça démarre dans les années 80, c'est un blanc et un noir. Le noir, c'est Russell Simmons, qui était le manager de Curtis Blow, une des premières stars du rap, qui avait fait le Christmas Rapping, qui a été un des premiers tubes, exactement au même moment d'ailleurs que Sugar Hill Gang. Et l'autre, c'est Rick Rubin, qui lui, c'est amusant parce qu'il l'a raconté, il dit « Quand je parlais avec mes potes étudiants et que je leur demandais qu'est-ce qu'ils aimaient comme musique, ils me disaient les Beatles, les Stones, Jimi Hendrix, les Doors, des gens qui étaient morts ou qui auraient tout aussi bien pu l'être. » C'est-à-dire, en gros, ce qu'il veut dire, c'est que c'est la musique du passé. C'est très bien, mais c'est une autre époque, c'est les années 70. Là, c'est les années 80. Et qu'est-ce que c'est la musique vivante dans les années 80 ? C'est le rap. Donc, ils vont s'allier, Russell et Rick, et fonder ce label Def Jam, qui va être un label qui va redonner ses lettres de noblesse au rap dur, au rap brutal. C'est LL Cool J qui va être la première star, et après, il y en aura bien d'autres. Il y aura Public Enemy, il y aura Redman, EPMD, et cette brutalité du rythme. Et puis cet humour aussi, parce qu'un des premiers slogans de Def Jam, c'est « Nos artistes parlent pour eux-mêmes », et derrière, il y a une parenthèse, « Parce qu'ils ne savent pas chanter ». Parce que c'est ça le rap, c'est pas de la ritournelle, c'est pas « Baby, I love you » avec une voix sucrée, c'est genre « Bam !» C'est « I can't live without my radio », c'est « Prophets of Rage », c'est « Bring the noise », c'est des trucs qui sont des imprécations, avec une musique dépouillée, avec une basse, une boîte à rythme qui tape. L'album de LL Cool J, c'est Rick Rubin qui le produit, et sur la pochette, au lieu qu'il y ait écrit « Produced », ben Rick Rubin, il a écrit Reduced by Rick Rubin, réduit par Rick Rubin, parce qu'on est à l'os, quoi. On est vraiment avec juste le rythme et la voix de ce jeune garçon de 16 ans, torse nu, les plaques de chocolat sur le ventre, les chaînes en or autour du cou, le chapeau kangol, et cette attitude, c'est l'attitude. C'est un type qui est là, qui a une personnalité incroyable.
Vous en parlez avec passion. Def Jam a popularisé de nombreux groupes de rap, et déjà on sent le son et la production évoluer, que ce soit les Beastie Boys, LL Cool J, Public Enemy, la professionnalisation des artistes est indéniable. Le discours paraît plus militant dans les années 80 que dans les années, on va dire, 70 avec Rapper's Delight ou The Message même. On a l'impression que les Public Enemy ou LL Cool J sont plus militants.
Oui, c'est vrai que c'est une période... Alors encore une fois, le rap est né comme une musique de distraction, party music, comme on dit aux États-Unis. Mais c'est vrai que dans les années 80, il y a eu plus l'accent sur une politisation dont Public Enemy est évidemment le fer de lance. C'est le groupe le plus efficace. C'est eux qui vont faire le générique de Spike Lee, Fight the Power, justement, avec le clip qui va avec, où c'est une manifestation carrément dans les rues de Brooklyn. Disons, le rap est passé par beaucoup de phases, il n'arrête pas d'évoluer. Aujourd'hui, on est dans une musique qu'on appelle la trap, qui est beaucoup plus faite de punchline. De toute façon, ça fait très longtemps que les Américains ont abandonné le côté narratif, c'est-à-dire que cette façon de raconter des histoires a complètement disparu, enfin... Elle existe toujours, mais de façon assez marginale. Aujourd'hui, c'est une musique qui est beaucoup plus justement sur une ambiance club, et le contenu politique a vraiment été gommé. C'est une autre époque. Mais avec l'avènement de Trump, on a vu quand même le retour justement d'une forme de militantisme. On l'a vu aussi avec Eminem à l'époque de Mosh, quand il luttait contre George Bush ou d'autres artistes à l'ère Trump.
Vous parliez de Fight the Power. En 1990 paraîtra donc Fear of the Black Planet de Public Enemy. Voici Fight the Power, vous devriez faire de la radio.
Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
Come on, nigga, down. funky drummer. Music hit your heart, cause I know you got soul.
Hey,
listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm singing.
Hey,
giving what you're getting. Knowing what I'm knowing. While the black band's sweating. In the rhythm I'm rolling. Rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need.
Hey,
our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power.
Fight the Power, Public Enemy en 1990, emmené notamment par le rappeur Chuck D, qui est toujours très actif, Olivier Cachin, on le connaît toujours aujourd'hui avec Prophets of Rage et le fameux Tom Morello. Revenons au tournant des années 90, tandis que Public Enemy agite la côte est des États-Unis, NWA bouscule la côte ouest. Qui sont ces gens, NWA ?
Alors, selon la légende, mais comme on dit souvent, si la légende est plus belle que la réalité imprimée de la légende, Easy est un dealer de crack qui va réinvestir son argent sale dans une production, celle d'un label qui s'appelle Ruthless Records. Et NWA, c'est Niggers with Attitude. Alors derrière Easy, qui est le fondateur du label et un des rappeurs principaux, il y a Ice Cube, il y a Dr. Dre qui va revendre pour quelques milliards de dollars sa boîte à Apple. Et puis, il y a MC Ren, DJ Yella, donc cinq noirs des ghettos de Compton, le pire quartier de South Central, le ghetto de Los Angeles, qui est un coin beaucoup plus violent que New York parce que la législation des armes est différente. Donc il est beaucoup plus facile de se procurer des armes automatiques. Donc il y a des drive-by shootings, c'est-à-dire des guerres de gangs aussi, puisque les gangs contrôlent certains quartiers. Il y a les Bloods et les Crips. Les Bloods couleur rouge, les Crips couleur bleue. Autant vous dire que si vous arrivez habillé en jeans et en denim dans un quartier des Bloods, très mauvaise idée. Et donc tout cet univers de violence, de brutalité assez sanguinaire qui est le quotidien des Noirs de Compton, et ben, c'est ce que NWA va retranscrire dans un premier album qui va être historique et qui est également le titre du biopic qui sera tiré de leur vie 20 ans après, Straight Out of Compton. C'est-à-dire l'histoire avec cette punchline qui est une des plus fameuses de Ice Cube, « For a kid looking up to me, life is nothing but bitches and money », soit pour un gamin qui me regarde les yeux plein d'étoiles, la vie c'est des putes et du fric. C'est à la fois très provocateur et c'est malheureusement tristement vrai puisque le dealer est la figure qu'on regarde parce que c'est le seul qui dans le quartier a un pouvoir d'achat, une puissance et qui donc représente une forme d'aboutissement, sauf que évidemment avec le rap on va arriver à un autre aboutissement qui est artistique et la façon qu'NWA a eu de mettre en scène cet univers de violence, de brutalité, de drogue, d'armes, ça donne un album magnifique qui contient notamment le morceau qui leur vaudra beaucoup de problèmes, Fuck the Police.
Précisons que dans votre livre, on retrouve le DVD du film Straight Outta Compton, signé Gary Gray. Vous semblez circonspect sur ce film tel que vous le présentez dans votre ouvrage. Pourquoi ?
Ah non, c'est vraiment... Alors pour moi, si vous voulez, non, là, ce qu'il faut dire, c'est qu'évidemment, il y a notamment une scène, surtout, qui est drôle quand on connaît l'histoire du groupe, c'est Tupac est en studio avec Dr. Dre, et dans la salle d'à côté, il y a le patron du label Death Row, le grand label de gangster rap, qui fait la fête avec ses potes, qui sont des OGs, alors les OGs ça veut dire Original Gangsters, en gros c'est des tatoués qui sont tous des meurtriers en puissance, voire en vrai, et là Dr. Dre sort et commence à gueuler, genre ouais arrêtez on est en train de bosser ici en gros, et là quand j'ai vu le film la première fois je me suis dit ah si cette scène là avait eu lieu, on n'aurait pas eu The Chronic, on n'aurait pas eu 2001, on n'aurait pas eu la vente pour 2 milliards, 3 milliards de dollars à Apple, on aurait eu Dr. Dre une balle dans la tête parce que c'était pas du tout le genre de type qui allait se laisser dicter ce qu'il avait à faire par un rappeur ou un producteur.
Donc la réalité a été édulcorée.
Bien sûr, c'est un biopic hollywoodien. Mmh. Donc on est à Hollywood, évidemment. Il y a une scène où on voit, par exemple, Eazy-E qui roule sur le Sunset Strip à Los Angeles et qui voit un panneau avec marqué Dr. Dre, The Chronic, son premier album solo, 5 millions d'albums, et il se met à pleurer sur son volant. Alors évidemment, dans le film, c'est très dramatique et c'est une belle scène. Dans la réalité, Eazy-E était producteur d'un groupe qui s'appelle Bone Thugs and Harmony, qu'il avait signé sur son label et qui a vendu 2 millions d'albums en quelques semaines. Donc c'était pas le loser qu'on présente non plus. Donc il y a des arrangements avec la réalité, mais encore une fois, le gros de l'histoire est de toute façon tellement vrai, tellement cinématographique que c'est quand même étonnant de se dire que 20 ans après, ce groupe qui a représenté mais vraiment la lie de la terre, qui a été mis au banc des radios, qui ne pouvait pas être diffusé, est le sujet d'un biopic qui va générer 200 millions de dollars et qui va être un des gros succès de l'année. À la surprise même des producteurs qui s'attendaient à ce que ça marche, mais pas à ce point.
Quoi qu'il en soit, Straight Outta Compton est d'abord un album historique signé NWA.
You are now about to witness the strength of street knowledge. Straight out of Compton, crazy motherfucker named Ice Cube.
where you from?
Straight out of Compton. Another crazy ass nigga. When punks I smoke, yo, my rep gets bigger. I'm a bad motherfucker and you know this. But the pussy ass niggas won't show this. But I don't give a fuck, I'ma make my snaps. If not from the records, from jacking across, it's like burglary. The definition is jacking. But when illegally armed, it's gonna pack it. Shoot a motherfucker in a minute. I'll find a good piece of pussy.
Straight Outta Compton, le premier album enragé de N.W.A. en 1988. Olivier Cachin, de nombreux rappeurs se feront un nom après leurs aventures de jeunesse. Je pensais à Ice Cube, Dr. Dre, Chuck D que vous avez mentionné. Et puis apparaîtront d'autres figures majeures dans les années 90. Snoop Dogg, Notorious Big, Tupac, Jay-Z, un peu plus tard Wyclef Jean. Lesquels ont plus d'importance à vos yeux et pourquoi ?
Bah, disons que dans ceux que vous avez cités, tous sont importants, mais ceux qui sont restés emblématiques, malheureusement pour une triste raison, c'est Tupac et Notorious Big, puisqu'ils ont chacun représenté à leur époque, au milieu des années 90, l'un la côte Est, New York, Notorious Big, l'autre la côte Ouest, Los Angeles, Tupac, et Notorious Big était son ennemi, entre guillemets, donc c'était une guerre qui a conduit à la mort de ces deux artistes à 6 mois d'intervalle. Hein. Le vendredi 13 septembre 96, Tupac meurt après une semaine dans le coma, après avoir été flingué dans un drive-by shooting justement à Las Vegas, et le 9 mars 97, donc à peine 6 mois plus tard, c'est toujours à LA, Notorious Big qui meurt, les deux tués par des assassins qu'on ne retrouvera jamais. Et là on revient finalement au pire démon du ghetto, donc ça a un petit peu calmé le jeu, mais l'héritage musical de ces deux artistes, il est immense, parce que un morceau comme California Love de Tupac ou Juicy de Notorious Big, ça fait partie des joyaux du hip-hop des années 90. Musicalement, en termes de flow, ça reste des artistes qui sont inégalés dans leur genre.
Pour moi, le plus dramatiquement honnête dans sa démarche individuelle, c'est Notorious Big, dont vous décrivez avec précision la personnalité sombre et mortifère. Est-ce que vous pouvez nous lire ce que disait Easy Moby de ce rappeur profondément rebelle, page 108 de votre livre ?
Alors, il envoyait tout chier, y compris sa mère, ce qui ne se fait jamais en rap. C'était noir, sans espoir et autodestructeur. Je me suis dit, ok, il se la joue, c'est son concept. Mais non, il était vraiment comme ça. Le mec venait de signer chez Bad Boy et ne se la pétait pas, il s'en foutait complètement. Déjà blasé, comme s'il avait tout vu et que plus rien ne pouvait le surprendre. En général, les mecs qui débarquent sont optimistes, pas lui. Pareil pour son image, tout était hardcore, sans compromis, entier. De l'odeur de ses pets à son œil de travers, en passant par son gros bide, il se foutait de tout, ne cachait rien et ses lyrics s'en ressortaient grandis. Même quand il avait un groupe de mecs autour de lui, il était seul, toujours.
Ça en dit long quand même sur l'état d'esprit de ces artistes au milieu des années 90 quand même.
Oui, et puis sur l'état mental aussi des noirs du ghetto, parce que c'est vrai que cette don't give a fuck attitude, cette façon d'accorder d'importance à rien, c'est aussi le produit d'une vie où on sait que justement la vie humaine ne vaut pas cher, qu'elle peut s'arrêter du jour au lendemain. De fait, hein, Tupac comme Notorious Big vont mourir à l'âge de 25 ans. C'est pas un âge pour mourir, et de mort très très violente. Donc c'est, oui, c'est très typique effectivement, et cette noirceur qu'il y avait dans le rap de Notorious Big, elle a donné naissance à quelques tubes énormes comme Juicy, mais il y a d'autres morceaux, Gimme the Loot, The What, qui sont très sombres. Et puis, c'était aussi un raconteur d'histoire. Quand on écoute les textes, quand on décortique le contenu, il y a des morceaux où il prend plusieurs voix à la fois. C'est quelqu'un de techniquement assez incroyable. Et aussi, et c'est quelque chose qu'il partage avec Jay-Z, il inquiétait beaucoup les producteurs pour ça, il n'écrivait jamais ses textes. C'est-à-dire que quand il arrive en studio, le grand classique, c'est qu'il demandait une feuille de papier, on lui donnait, et il prenait la feuille, il roulait un joint d'herbe et tout le monde commençait à suer à grosses gouttes en se disant, parce que vous savez, là, ça coûtait cher à l'époque les studios. Donc pendant une heure, deux heures, le mec fumait son joint, faisait tourner la musique, il disait remets l'instrumental. Et il se disait, bon là, en gros, on a perdu deux heures. Et à un moment, il se lève, il fait OK. Et là, il va au micro, et là, d'une traite, bam, il balance son texte. En fait, il travaillait, mais au lieu d'écrire ses textes, il les écrivait mentalement. Et cette façon de travailler, qui est propre à Jay-Z aussi, qui a pas mal bossé comme ça, c'est quelque chose de... qui n'a pas d'équivalent. Aujourd'hui, les rappeurs, ils travaillent avec leur téléphone portable et leur texte écrit dessus. Mais c'est vrai qu'il y en a très peu qui ont ce sens de l'improvisation et de l'écriture mentale, comme l'avait Notorious Big.
Olivier Cachin, il est évidemment impossible de narrer 50 ans de rap made in USA en une seule émission. Je rappelle que Naissance d'une nation hip-hop est disponible chez GM Édition, avec de surcroît le DVD du film Straight Outta Compton. On peut préciser aussi que vous avez sorti un bouquin consacré à Michael Jackson qui s'appelle Michael Jackson, métamorphose musicale, toujours aux éditions GM Édition, avec aussi un
lui
DVD
aussi avec un film, ouais.
Qui est le Moonwalker.
C'est le seul absolument. Film qu'il a réalisé au cinéma, avec le fameux ballet de Smooth Criminal, le Lean.
Drôle de film.
Oui, c'est curieux. Il y a des superbes séquences. Bon, après, c'est pas très structuré, mais enfin, il y a Joe Pesci, il y a le fils de John Lennon, il y a plein de trucs bizarres, mais il y a des séquences magiques. Faut se laisser guider, laisser bercer par la musique.
Pour moi, c'est un film pour enfants, on va dire. Je signale également qu'on vous retrouve régulièrement chez nos confrères de Move, l'une des radios de Radio France.
Absolument, c'est le samedi de 13h à 14h, heure française, en direct live.
Félicitations et très belle année 2018, puisque c'est toujours possible.
Bonne année à vous, Joe.
Merci à Pauline Leduc, dont le flow en régie finale a rythmé cette émission, et des bises à Nathalie Laporte, qui supervisait l'ensemble. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.